Bonjour à tous, il est midi ici à Paris, 13h à Gaza.
Karine Bellicha.
À la une, le difficile retour des Palestiniens chez eux dans le nord de la bande de Gaza. Après la trêve et le feu vert israélien, des centaines de milliers d'habitants tentent de rentrer chez eux, mais souvent, ils ne retrouvent que des ruines. En France, l'ouest du pays attend avec inquiétude un nouvel épisode de pluie et peut-être de nouvelles inondations dans des zones qui ne sont pas touchées habituellement. Pauline Glaise du service environnement nous expliquera. Enfin, une ambulance ukrainienne sillonne l'Europe, prise pour cible par l'armée russe. Elle rappelle l'horreur de la guerre aux populations près de 3 ans après l'invasion décidée par Vladimir Poutine. Après l'Arabie Saoudite, l'envoyé spécial du président Trump est arrivé hier en Israël. Steve Witkoff doit rencontrer le premier ministre Benjamin Netanyahou et d'autres responsables israéliens. Il doit également visiter le corridor de Netzarim dans la bande de Gaza, alors que les habitants du nord de l'enclave palestinienne continuent de rentrer chez eux. Plus de 370 000 personnes ont regagné leur domicile ces dernières 48 heures, d'après un décompte effectué par l'ONU, mais beaucoup d'entre eux ne retrouvent qu'un champ de ruines après 15 mois de bombardements intenses. Pierre-Olivier.
Ils sont des centaines de milliers à regagner le nord de l'enclave palestinienne et leur domicile sur place. Pourtant, c'est un paysage de désolation. Clémence Laguarda est responsable des opérations à Gaza pour l'ONG Oxfam.
On parle de 42 millions de tonnes de gravats qui doivent être enlevés. Pour ça, il faut un équipement spécialisé. Il y a aussi un risque très important de retrouver des munitions qui n'ont pas explosé, des restes d'explosifs.
Au milieu des ruines, la gestion de l'eau potable est aussi particulièrement délicate.
Pour l'instant, il y a quelques points d'eau qui opèrent et les ONG essayent de mettre en place des camions citernes et des points de distribution un peu partout pour que les gens aient accès à de l'eau potable. Mais clairement, le réseau à l'heure actuelle ne fonctionne pas et a été largement détruit.
Malgré tout, l'aide humanitaire parvient à être acheminée. Clémence Laguarda.
Depuis le cessez-le-feu, le nombre de camions qui entrent dans le nord a augmenté. On est à environ 300 par jour. Par contre, contrairement au sud, l'aide qui rentre dans le nord est vraiment de l'aide d'urgence. Mais pour l'instant, tout ce qui est matériel spécialisé et qui justement peut permettre la réhabilitation des réseaux d'eau, etc., ne peut pas encore rentrer.
Car l'autre défi de taille est le retour de l'électricité, alors que près de 80% des installations ont été détruites.
Plus au nord, le cessez-le-feu avec le Liban est aussi précaire. 2 frappes israéliennes ont fait 24 blessés hier dans le sud du pays. Israël affirme avoir visé 2 véhicules transportant des armes du Hezbollah. Le premier ministre libanais dénonce une violation flagrante de la trêve. Félix Tshisekedi ne participera pas au sommet avec Paul Kagame. Les présidents de la RDC et du Rwanda devaient se retrouver aujourd'hui pour évoquer la situation à Goma. Une rencontre à l'initiative du Kenya. Le M23 et l'armée rwandaise progressent dans Goma. Les combats ont déjà fait plus de 100 morts et près d'un millier de blessés, selon un décompte de l'AFP. La vaste majorité sont des civils, selon le CICR. Rattraper son retard dans la compétition mondiale face aux États-Unis et la Chine, voilà l'objectif de l'Union européenne. Bruxelles dévoile aujourd'hui son plan de compétitivité, choc de simplification administratif, baisse du coût de l'énergie, aide à la transition verte pour l'industrie, autant de chantiers prévus pour aider les entreprises européennes face à la concurrence internationale. En France, la vigilance rouge au cru, le plus fort niveau d'alerte, est maintenu dans plusieurs départements de l'Ouest. L'Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique et le Morbihan. Et les inondations risquent de s'aggraver avec la nouvelle dépression Ivo qui devrait provoquer de fortes pluies. Pauline Glaise du service environnement nous a rejoint. Bonjour Pauline.
Bonjour.
Les inondations ne sont pas habituelles dans cette région.
Pas à ce niveau-là, en tout cas. Ce qui est inhabituel, ce n'est pas la violence des flots. On n'est pas sur un scénario de déferlement des eaux comme à Valence en Espagne, mais les rivières qui traversent Rennes subissent des crues qui n'ont pas été vues depuis 40 ans. Face à l'étendue des inondations, le gouvernement a d'ailleurs déclenché la procédure accélérée de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Épisode inhabituel aussi du fait du cumul des pluies sur le mois de janvier. Il dépasse déjà les 178 mm. Du jamais jamais vu depuis la création de la station météo en 1944. Et de nouvelles précipitations avec cette troisième dépression en quelques jours devraient encore augmenter ce cumul.
Question que l'on se pose à chaque nouvel épisode, est-ce que ces pluies sont accentuées par le réchauffement climatique?
Alors selon Météo France, cet épisode serait principalement lié à la variabilité naturelle de la météo. Cela dit, les températures supérieures aux normales de saison jouent un rôle. Plus l'atmosphère est chaude, plus elle peut contenir de la vapeur d'eau qui finit par retomber. Par ailleurs, l'impact de ces pluies est intensifié par l'urbanisation et l'artificialisation des sols. Dans l'agglomération rennaise, par exemple, l'urbanisation se poursuit, entre autres, pour répondre aux besoins en logement.
Pour réduire le risque d'inondation, Pauline, il faut donc désimperméabiliser les sols.
Et selon l'Agence locale de l'énergie et du climat, Rennes y a réfléchi. Son plan climat prévoit de désimperméabiliser à tous les niveaux, des cours des maisons individuelles au terrain industriel en passant par les rues. Objectif, permettre aux eaux de s'infiltrer. Un travail est également mené sur la restauration des zones humides. Elles permettent de stocker l'eau quand il en arrive beaucoup. Autre solution qui permettrait au territoire d'être mieux préparé, la végétalisation et la reconstitution du bocage. Le bocage, ce sont des terres agricoles fermées par des haies. Il a été détruit pour assembler et agrandir les parcelles.
Pauline Glaise du service environnement d'RFI. La guerre en Ukraine ne connaît pas de répit. L'armée russe continue ses bombardements contre les villes et le réseau énergétique ukrainien. Kiev poursuit ses attaques de drones contre Moscou. La nuit dernière, une centaine d'engins télécommandés ont touché la région de Koursk, notamment. Loin du front, en France, une ambulance ukrainienne fait escale à Sucy-en-Brie, ville de banlieue parisienne. Une initiative d'AMF, Ambulance Mitraillée France-Ukraine. Il s'agit d'un projet humanitaire qui rassemble plus de 45 associations, dont Pharmaciens sans frontières. En septembre 2022, une ambulance ukrainienne dans la région de Kharkiv avait été prise pour cible par la Russie. Depuis, elle sillonne l'Europe. Le reportage à Sucy-en-Brie de Sylvie Coffi.
Allez, à bientôt. Merci. Hein. Slava Ukraini !
Patrick Angelvi est secrétaire général de Pharmaciens sans frontières dans le Val-de-Marne.
Slava Ukraini, ça veut dire gloire à l'Ukraine. Et les gens répondent Heroim Slava, au héros la gloire. Et ça montre un petit peu leur résistance et leur courage.
Résister et surtout ne pas les oublier, c'est le message porté par cette ambulance qui sillonne l'Europe. Pour Patrick Angelvi, c'est un témoin précieux.
Quand on voit un trou, deux trous de balles, trois impacts de balles, on peut toujours dire que ce sont des balles perdues. Là, quand il y en a, je crois, 402, on peut quand même comprendre effectivement la façon dont M. Poutine lit la Convention de Genève qui indique qu'on ne tire pas sur les ambulances. Et en même temps, cette ambulance, c'est le symbole de la résistance et le symbole du courage des Ukrainiens. Et je veux dire que cette ambulance, elle dit rien, elle parle pas, et pourtant, elle nous interpelle. Je veux dire que cette ambulance est un véritable cri silencieux qu'elle nous lance pour nous interpeller sur le drame que vivent ces gens. À moins de 2 heures d'avion de chez nous, c'est pas acceptable. Ça nous permet, en montrant ce qui se passe, de pouvoir lever des fonds pour acheter plus d'ambulances.
Un spectacle qui ne laisse personne indifférent. Sur la place du marché, certains s'arrêtent, observent et ont du mal à trouver les mots.
Quand je l'ai vu et j'ai pu toucher les impacts des balles, c'est assez effrayant. Vous voyez, c'est une expérience malheureuse, mais indispensable pour les gens qui vivent ici, loin de la guerre et loin des atrocités.
C'est une horreur, bien sûr, la guerre est une horreur, on sait bien. Hein. C'est lamentable qu'au XXIe siècle, on soit si peu civilisé encore. C'est pour ça que c'est un véritable désespoir.
C'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Alors parfois, on le voit à la télé, on le voit dans les films, mais là, c'est réel. C'est vrai que c'est assez choquant et ça parle aussi.
On ne devrait plus vivre toute cette guerre.
Je viens voir l'ambulance qui a été mitraillée copieusement. Je suis effaré.
À quelques mètres de l'ambulance, un petit groupe d'Ukrainiens collecte de l'argent pour financer de nouveaux véhicules de secours. Parmi eux, Elisabeth. Elle fait partie des 50 familles qui ont été hébergées à Sucy-en-Brie au tout début de la guerre. Aujourd'hui, elle étudie l'histoire à la Sorbonne.
En fait, mon appartement a été bombardé, donc je peux pas revenir. Et pour le moment, pour l'instant, je suis en France, je suis à l'université et je reste ici. J'apprends la langue, je vois mon avenir ici, en France.
Après des escales dans plusieurs villes de France, l'ambulance mitraillée repartira en avril en Espagne.
C'était le reportage à Sucy-en-Brie de Sylvie Coffi. Un mot de foot pour refermer ce journal et la dernière journée de la première phase de la Ligue des Champions. À l'affiche ce soir, notamment PSV Eindhoven-Liverpool, Stuttgart-PSG, aussi le match entre Brest et le Real Madrid.